nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Léger. Un homme leur dit : Voulez-vous vous déshabiller entièrement et mettre cette combinaison ? Elle est ultra légère et s'adapte à votre corps d'une façon parfaite. Vous pourrez vous mouvoir sans vous rendre compte que vous avez cette combinaison si vous voulez. Elle est faite d'une matière spéciale qui lui permet de recevoir sur toute sa surface les ordres de l'ordinateur et de vous envoyer des sensations sur tout votre corps, comme si vous aviez pour de vrai ce que vous allez vivre. Elle va apporter une sensation de chaleur, de pluie, de bruit de mer, même sexuel, etc., etc. C'est sans aucun risque. Il n'y a aucune machine ou puce. C'est juste un tissu qui capte l'envoi des signaux. Et c'est tout. Déshabillez-vous. Les deux amis se déshabillent. Entièrement. Puis on les aide à mettre leur combinaison. Qui recouvre tout le corps. Et laisse que la tête, et même la tête, ne laisse que des trous pour les yeux. Ça les moule comme de la peau et fait bien voir leur forme. Les deux amis peuvent entendre ce que l'on dit. Et ensuite, on leur met des lunettes sans fil qui reçoivent des images et le son, parce qu'elles servent aussi pour le son. Elles sont petites, très légères et bien fixées. On ne sent pas qu'on les a. Comme si il n'avait pas de lunettes. Ces lunettes reçoivent des informations par son de laser. Elles ont des écrans. On les met au milieu de la pièce, ni l'entendent ni le voient, ni ne sentent. Puis de la régie, on leur envoie des images et du son, etc.
Oh.
font le même rêve, voient les mêmes choses et se voient. Parce qu'un metteur en scène met leur physique scannée sur l'autre. C'est comme s'ils se regardaient dans la glace, ils se voient. Le voyage se passe bien. Ils ont vraiment l'impression de le faire tous les deux. Le climat, les odeurs, les décors, les personnages, tout semble vrai. Ils ne s'en rendent pas compte, mais la combinaison est capable de ressentir lorsqu'ils ont besoin d'aller faire leurs besoins naturels, de boire, de manger et de dormir. La combinaison se rend compte sans attendre que l'urine vienne dans la vessie ou que les selles arrivent bien avant qu'ils ont besoin. Pour ce qui est du sommeil, c'est par les yeux et le corps qui devient mou. Pour ce qui est des repas, c'est l'or et la soif, c'est la bouche sèche. Alors lorsqu'un besoin naturel se fait sentir, on arrête le voyage en envoyant des ondes qui font dormir le voyageur. Une fois endormi, on lui enlève sa combinaison, on lui donne à manger ou à aller au WC, etc. Bien entendu, ça se peut que ce soit tous les deux en même temps. Mais l'on peut, sans que l'autre s'en rende compte, que l'un s'arrête. Mais ni l'un ni l'autre ne se seront rendus compte de l'arrêt. Le sommeil est profond et rapide, et oublié. Des hommes sont en permanence dans la pièce et attendent les ordres du régisseur qui reçoit sur ordinateur les besoins des voyageurs. Pour ce qui est des repas, qu'ils croient manger, eh bien ce sont des repas factices comme le reste. Ils croient manger et boire, mais non. Tout vient de la régie, qui est un ordinateur qui envoie les informations qui sont sur disquette, une par spécialité. Un ordinateur qui reçoit les informations des voyageurs et un autre qui enregistre le voyage en scannant le voyageur pour le remplacer par des personnages en 3D pour faire un film télévision. Le régisseur est très vigilant et fait évoluer l'histoire suivant l'évolution du voyage, des voyageurs et ce qu'ils désirent dans leur rêve. C'est-à-dire qu'il suit le scénario qui était prévu à l'avance, mais au fur et à mesure que l'histoire est vécue, il fait en sorte à suivre l'évolution de ce que veulent les deux voyageurs. Puis une semaine, pour Julien et Gilbert, une semaine se passe très vite. On les ramène à la réalité. Petit à petit, comme enfendu dans un film, où ils voient disparaître Tahiti pour voir le hangar. Voilà, puis on leur enlève leurs lunettes. enlèvent leurs lunettes et leurs combinaisons. Ils sont un peu étourdis et tristes. On les mène à l'infirmerie pour les masser, leur donner un bon bol de vitamines et une douche. Puis on les mène chez le médecin pour une visite complète. Ils sont déprimés, n'ont pas envie de retourner à la vie. Il y a encore toutes ces belles couleurs devant leurs yeux. La visite les trouve normales, à part la dépression, et ça passera vite. Ensuite, on les mène chez Luc. Demande. Ça s'est bien passé? Julien lui dit. Oui, très bien. Eric lui dit. Vous savez, vous avez vécu exactement la même chose. La régie vous a mis synchro. Vous pouvez vous échanger vos souvenirs, ils sont les mêmes. Pas que vous allez vouloir recommencer cette chose, mais faire d'autres aventures. Avant, bien entendu, de recommencer, il va falloir vous reposer un peu. Vous êtes déprimé, mais ça va passer. Gilbert lui dit, c'était une très belle expérience. Ils sont sortis du centre satisfaits, retrouvent leur vie. Gilbert est allé attendre Nathalie à la sortie de ses cours. La voix lui demande. Alors, tu t'es bien amusé? Il lui dit, quoi? Elle lui dit, je sais où tu étais. Une de mes copines est hôtesse là-bas. Tu es allé dans ce lieu. Tu devrais avoir honte de me tromper avec n'importe quoi. Il lui dit gêné, je te jure que je ne t'ai jamais trompé. Et d'ailleurs, Julien était avec moi. Nous avons fait le même voyage. Elle lui dit, tu parles, Julien est toujours ton complice. Il demande n'importe quoi, il le fait. Il lui dit, je te le jure. Elle lui dit, arrête, je ne te crois pas. Les femmes sont bien malheureuses. Elles ont à lutter contre des êtres parfaits et qui se plient à tous vos caprices de ces messieurs. C'est pire que la prostitution parce qu'il n'y a pas de sordide, sauf si vous le demandez et vous ne risquez pas la punition divine, c'est-à-dire les maladies sexuellement transmissible. Il lui dit, femme, vous pouvez y aller, ça ne vous est pas interdit. Elle lui dit, ah, tu vois que tu m'as trompé, tu viens de le dire. Il lui dit énervé, écoute, je ne t'ai pas trompé, je suis ici, si tu ne le crois pas, je m'en vais. Il fait geste de partir. Elle lui dit, non, reste, je ne veux pas que tu ailles retrouver ces femmes. Il lui dit, je reste, mais promets-moi de m'écouter et de me croire. Elle lui dit, parle d'abord. Et il lui raconte son aventure. Alors, tu vois qu'il n'y a pas de sexe. On ne va pas là-bas que pour le sexe. Bien, je te crois. Les jours passent. Dans le bureau du président de la République à l'Élysée, le ministre de l'Intérieur, un homme grand, fort, chauve, costume gris, dit au président « J'ai pensé à une chose, pourquoi ne ferions-nous pas un procès aux responsables de la catastrophe du sixième continent qui a ruiné le monde occidental en nous tuant tous ses cerveaux ?» Le président lui dit « Mais il n'y a pas de responsable. C'est une catastrophe naturelle. C'est vous qui le dites. Mais pour moi, le responsable, les responsables, ce sont ceux qui ont construit, colonisé le continent. » Le président lui dit « Plus personne. » Le ministre lui dit « Si, le groupe Jeune Toup en toi, c'est lui qui a conçu et été propriétaire de cette chose. » Le président lui dit, on ne peut pas faire le procès de ce groupe qui a été le premier au monde et qui est maintenant dans le groupe Franc-Blanc, qui lui aussi va devenir le premier du monde. Les Américains seraient heureux que l'on fasse ça, détruire le premier groupe mondial qui est français par des Français. Nous serions la risée du monde et ce serait notre fin. L'Amérique reprendrait la première place. Et puis, pourquoi voulez-vous ce procès ? Le ministre lui dit, pour amuser la galerie et nous rendre populaires en France. Vous voyez, même les riches sont jugés. Il y a une justice en France, etc. Le président lui dit, pas que l'on touche au groupe Jeune Toup Franc-Blanc, c'est sacré. Les jours passent. Dans le laboratoire de la clinique Jeune Toup Riquin, le clone de Gilbert grandit très vite. C'est presque un bébé. Mais on se demande si sa rapidité va se développer, si sa vie ne va pas être aussi rapide qu'un éclair. Son horloge-temps va à une vitesse grand V. Les jours passent. Charlotte organise une soirée, mais le corps n'y est pas, elle déprime toujours. Elle organise cette soirée, c'est pour faire plaisir à son mari. Durant toute la soirée, elle reste seule. Son mari est allé discuter avec des invités et son fils et avec Nathalie, qu'il a invité. Bien obligé, parce qu'il la fréquente d'une façon assidue. Charlotte s'ennuie énormément.
Tu étais bien, le Butler ?
Oui, tu étais très convaincant.
J'avais peur d'avoir été un peu loin.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Il est là, regarde, avec Helga Bauer.
Ça ne l'intéresse pas d'aller discuter avec ces femmes qu'elle a invitées.
Helga Bauer ? La cinéaste ?
Parce qu'elles sont soi-disant ses amies.
Et là, Norman, si avec
Gabriel. Ce soir, ce sont pas ses amis, mais des femmes qui lui semblent se moquer d'elle, profiter d'elle.
Et votre dame au camélien.
Elles sont plus ses ennemis que ses amis.
Mon choix sera vite fait, madame Meinhold.
Vous êtes toujours excessif, Thomas.
Elles n'attendent qu'une chose, c'est qu'elle tombe. Et puis,
cette année,
leurs conversations sont superficielles, méchantes.
C'est une ascension très dangereuse.
Il faut toujours qu'elles disent du mal de quelqu'un.
Oui, et je vous engage comme...
Charlotte n'en a rien à faire de ces femmes. D'ailleurs,
madame Meinhold,
elle a envie que d'une chose,
je veux savoir si oui,
et de s'allonger et de rêver,
je regrette
oublier tout ça.
Monsieur Korsakov, nous parlions voici.
Mais elle ne peut pas partir, s'éclipser, elle est la maîtresse de maison. Ah, elle doit rester. Un jeune homme, dans les 25 ans, vient vers elle. Il est grand, mince, blond, visage très jeune, avec un petit nez délicat. Il lui dit, « Belle soirée, n'est-ce pas ?» Elle lui dit, « Oh, vous retrouvez ?» Il lui dit, « Oui, parce que vous y êtes. » Elle le regarde surprise. Pourquoi me dites-vous ça ? Il lui dit, parce que vous êtes charmante. Elle lui dit, merci, mais vous savez que c'est que ça qui me reste. Charmante, c'est tout ce qui me reste, hélas. La beauté s'est envolée. Il lui dit, pourquoi dites-vous ça ? Elle lui répond, parce que je sais ce que je suis hélas devenu et que je ne suis plus en âge de recevoir des compliments d'un si charmant jeune homme. Il lui dit, moi je vous trouve très belle et séduisante. Elle lui dit, vous moquez de moi. Non, je vous assure, la preuve, je suis venu à vous. Elle lui dit, parce que vous savez qui je suis. Il lui dit, non, je vous assure. Je m'ennuyais comme vous, et je vous ai vu. Elle lui dit, il y a tellement d'autres jeunes filles. Il lui dit, oh, ce que vous appelez jeunes filles, ces choses qu'écrivent tout le temps et se mettent dans tous leurs états lorsqu'elles sont près d'un garçon. Moi, j'aime le calme et les femmes qui me parlent pas pour ne rien dire. Qui ont de l'esprit. Elle lui dit, comment savez-vous que j'ai de l'esprit? Il lui dit, je sais, parce que vous vous taisez. Les personnes qui ont des choses intelligentes à dire ne parlent pas tout le temps, et ce qu'elles disent valent la peine d'être écoutées. Les femmes qui parlent constamment, c'est pour faire du bruit, pour éviter le silence. Parce que les silences appellent la réflexion. Et si on réfléchit, elles savent que l'on n'appréciera pas ce qu'elles diraient. Parce que ce n'est que du bruit, rien. C'est pour éviter qu'on les juge.
Vous le connaissez ?
Qu'elles pécorent sans arrêt. Pour nous empêcher de nous rendre compte de leur nullité.
La guerre ensemble.
Elle lui dit, On peut être silencieux, parce qu'on n'en a rien à dire. C'est peut-être vide, comme une couche. Il lui dit, au moins, cette personne s'aperçoit qu'elle n'a rien à dire et ne veut pas ennuyer les autres en disant des choses sans importance ou intérêt. Elle est plus intelligente que les autres. Et vous ? Ce n'est pas que vous n'avez rien à dire. Mais c'est parce que vous taisez, parce que vous ennuyez au milieu de tout ça. Elle lui demande, comment le savez-vous ? Il lui dit, par votre maintien et votre façon de regarder les autres. Elle rougit et lui dit, ça se voit. Il lui dit, que vous les jugez pour ce qu'ils sont ? Pour moi, oui, mais pas pour les autres. Elle fait, tant mieux. Il lui sourit et lui dit, si vous voulez, nous pourrions sortir. Elle lui demande, pour aller où ? Il lui dit, chez moi. Elle lui dit, je dois rester. Il lui dit, un autre jour alors. Vous me donnez rendez-vous ? Elle lui dit, non merci. J'ai plus l'âge. Et puis, vous savez, j'ai un mari qui lui est très intelligent. Ne parle pas pour rien dire. Alors, tant pis. Il lui dit, tant pis pour moi, il soupire et s'éloigne et se dit, drôle de jeune homme. Son mari s'approche d'elle et lui demande, qui est ce garçon à qui tu as parlé pendant un long moment ? Elle lui dit, tiens, je ne sais même pas son nom. Il m'a fait la cour, sans savoir qui j'étais, il m'a proposé un rendez-vous. Il m'a dit que j'étais une femme très intelligente et belle. Il lui dit, il a raison, ce garçon. Tu es une femme très belle et intelligente. Elle lui dit, tu ne me dis pas ça souvent. Il lui dit, mais j'y pense constamment. Que veux-tu ? L'envie. Plus ou moins. Mais les sentiments restent les mêmes. Il l'embrasse sous la joue et lui demande, tu t'ennuies pas trop ? Elle lui dit, oh, que si. J'ai hâte que ce soit fini tout ça. Heureusement que j'ai eu de la discussion avec ce jeune homme qui était très distrayante. Et toi, il lui dit, oh, aucune femme ne m'a dragué. Je ne suis pas aussi intelligent et sexy que toi. Et la soirée continue. Il a été obligé, c'est de la laisser pour aller parler à des hommes d'affaires pour qu'ils construisent des machines de chantier.
Dis-moi, t'es content d'être venu ?
Bien sûr, c'est formidable. Ah, écoutez les enfants, si on lâchait cette sauterie pour aller chez Mamie Field.
Les jours passent. Un soir, il entre chez lui et va la retrouver au salon.
Entrez.
Elle est assise au salon dans un fauteuil. Il va à elle. Tiens. Que c'est ? Elle ouvre et voit un magnifique collier de diamants. Elle lui dit, mais c'est magnifique ! Il lui dit, elle a appartenu à Marie-Antoinette. Mais c'est trop beau ! Elle se lève pour l'embrasser sur les lèvres et lui demande, pourquoi ? C'est pour te remercier de ta bonne conduite durant la soirée. Mets-le. Elle le met. Elle lui dit, il est magnifique. Il lui dit, pas autant que toi. Elle met le collier dans le coffre du bureau de son mari et le mettra que pour les grandes circonstances. Les jours passent. Une nuit, à 3h du matin, un homme saute le mur de la cour des Francs Blancs. Il va jusqu'à l'entrée de leur maison. Avec un pinceau au laser, c'est une tige qui entre dans la serrure et qui prend la forme de la clé voulue d'après les formes intérieures de la serrure. La porte. L'homme entre tout doucement. Il s'éclaire avec une petite lampe de poche et se dirige vers les escaliers. Et monte à l'étage. Au premier, il surmonte le couloir et ouvre la porte du bureau de Maurice. Il sait où est le coffre. Le coffre est derrière un tableau. Il retourne le tableau. Là, il y a le coffre. Et introduit le laser dans la serrure, tout en faisant manœuvrer les chiffres. Le laser se transforme au fur et à mesure que les chiffres font bouger les formes de la serrure. Enfin, le coffre s'est ouvert. vite et regarde. Et prends ce qu'il y a dans le coffre. C'est le coffret au collier. Il ouvre pour voir si le collier y est. Oui, il y est. Et sort du bureau sans fermer le coffre. Il entre dans sa voiture et la met en route. La voiture le mène dans des rues tortueuses de Paris. La voiture s'est arrêtée devant l'entrée d'un vieil immeuble étroit, lépreux, de 4 étages, sans âge. Il sort de voiture et va rentrer dans l'allée. L'allée n'a pas de système de fermeture. L'allée est sombre, sale. Il monte jusqu'au 2e étage. Arrivé au 2e étage, il a frappé à la porte de droite. La porte s'ouvre. Un homme grand, mince, cheveux gris, visage osseux, habillé d'un costume noir râpé. Il lui demande « C'est vous ?» L'homme lui montre le coffre. L'homme lui dit « Entrez !» Il entre. C'est un appartement sombre, avec presque pas de lumière, juste une lampe au plafond. Il est vide et semble abandonné. « Venez !» L'homme le conduit le long d'un couloir. Il ouvre une porte. Entrez. Il entre. C'est une pièce nue. Un homme est assis dans un fauteuil. Il semble grand, avec, mais son visage est à contre-jour. Il ne doit pas être jeune. Il a un côté vieux. Il a en ombre chinoise. Il dit « Approchez ». Il s'approche. Il lui dit « Tenez-le-moi ». Il tend le coffre. L'homme l'ouvre. Voit le collier. Merci. Il demande, qu'allez-vous en faire? L'homme lui dit, le donner à celui qui doit l'avoir. Allez, merci. Et il se retire. L'homme qui est assis dans son fauteuil se lève et sort de la pièce. Dans le couloir, le domestique lui dit « Allons-y. Il ne faut pas rester ici, on ne sait jamais. » Les deux hommes sortent de l'appartement. Une fois dans l'allée, ils vont descendre les escaliers. Une fois en bas, au lieu de sortir par la porte, l'homme qui a le coffre va ouvrir la porte qui est sous les escaliers qui donne à la cave. Il est clair. Il descend les escaliers de la cave. Longe un couloir. Il y a une autre porte. Ils vont l'ouvrir. Elle donne un jardin en friche qui se plaint. Une descente qui va en bas d'une rue. Saute le muret et se laisse glisser jusqu'en bas. Là, il y a une cour qui donne à un immeuble. Ils vont ouvrir la porte de cet immeuble. Ça donne à l'allée. Ils y sont entrés. Sorte de l'allée. Il se trouve dans une autre rue où une voiture noire les y attend. Pour ceux qui n'ont pas compris, disons que l'immeuble où ils étaient se trouvait rue de l'Annonciade et que la rue de l'Annonciade est en haut de la rue Bouteille. Les cours et les caves des immeubles de la rue de l'Annonciade sont au-dessus de la rue Bouteille et les gens de la rue de l'Annonciade surplombent la rue Bouteille lorsqu'ils sont dans leur coin, dans leur cour ou jardin. Il suffit de leur cour qui se laisse descendre pour aller rue Bouteille. Certains endroits, ils peuvent se laisser glisser. D'autres pas. Ils peuvent passer par le toit d'une maison de la rue Bouteille. On aboutit soit à la rue, soit à une cour. À Paris, dans d'autres villes, il y a des endroits comme celui-là. À Lyon, c'est la rue de l'Annonciade et sûrement beaucoup d'autres rues. Donc, il s'engouffre dans une voiture. Et un chauffeur la met en route. L'homme qui tient le coffre dit comme ça, même si on a surveillé la sortie de l'immeuble, on ne nous aura pas vu sortir. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti.